Je vais essayer de me dépêcher parce qu'on a 15 minutes. Je vais couper plein de choses, mais quand même, je vais faire mon mieux. Et d'abord, la présentation s'intitule « Les modifications à l'article 27 de la Constitution mexicaine, c'est les raisons et les limites ». Et je commence avec un petit... Je vais sauter tout ça parce que je vais expliquer quand même un petit peu après ce qui se passe. Mais c'est la structure de la présentation. Je vais parler un peu de l'histoire de ce qui se passe au Mexique au niveau de la propriété sociale. Et pourquoi est-ce qu'il est important la propriété sociale en tant que telle? Et pourquoi est-ce qu'on fait emphasis à la propriété sociale? Et les attentes de l'ALENA, après ça, qu'est-ce qu'on a fait avec l'ALENA? Au niveau les libres marchés, les temps d'amortissement ou l'équilibre par rapport à les économies plus faibles. En tout cas, dans ces cas-là, c'est le Mexique. Et après ça, ça c'est le cours de la présentation, c'est les conséquences économiques de l'ALENA au Mexique, les conséquences environnementales et les conséquences sociales. Et évidemment, je vais faire une espèce de résumé avec ce qui se passe au niveau du Mexique. Il faut que vous le savez, tout le monde le sait, j'imagine, ça fait 20 ans de l'ALENA. Ce n'est pas ici au Canada qu'on parle de ça, ça se passe aussi au Mexique et le débat, c'est énorme. Donc, l'histoire bref, je vais sauter tout ça. Et je vais essayer de coller au microphone aussi. D'abord, quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, au niveau continent, ils avaient six différents tournures de la Terre. Je ne vais pas les mentionner, mais ils sont six. Et la plus importante à l'époque, c'était les Calpullis. Les Calpullis, c'était vraiment les précédents de l'Ejido. Ceux qui en connaissent l'Ejido maintenant, c'est la propriété sociale, l'Ejido et les terres communales. Et c'était le système de production le plus important à l'époque. Et c'était un outil nécessaire d'organisation territoriale et sociale. Et c'était le pilier de la grande société aztèque avant l'arrivée des Espagnols au continent américain. Évidemment, quand les Espagnols sont arrivés, il y a eu un mélange entre le système espagnol et celui-là qui était déjà imposé ou qui était en place au Mexique. Et évidemment, entre les deux systèmes, l'Ejido et les Calpullis, c'est considéré comme un hybride en ce moment, parce qu'il y a des éléments préhispaniques dans l'Ejido qui sont encore là, au niveau des parcelles communautaires, au niveau de comment est-ce qu'ils font le travail, les paysans. Donc, cet Ejido est devenu aussi un outil très important une fois que les Espagnols sont arrivés au continent. C'est un outil de contrôle de la population. Et d'abord, c'était la population autochtone, et après, c'est devenu un outil de contrôle de la population métisse. Pardon. Donc, il y a des changements, évidemment, au niveau des lois de l'Ejido. Et ça, on va le voir ensemble. Et je continue avec... le Mexique, comment est-ce que ça a évolué, cette histoire des Ejido au cours des temps? J'essaie de faire un parcours assez vite de ce qui se passe avant la révolution, la conquête, etc. etc. Donc, le Mexique et le Pérou, c'était les deux pôles les plus importants d'extraction minière quand les Espagnols sont arrivés ici. Cette façon d'extraction au Mexique, les Espagnols, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus d'exploitation avec les techniques qu'ils avaient à l'époque, et ils se sont rendus compte de l'importance justement de la terre communale. Donc il y a un changement. Au début, c'était les Espagnols qui faisaient l'exploitation minière d'or et d'argent, et au XXe siècle, c'était les compagnies plutôt nord-américaines, françaises et anglaises qui sont occupées de l'exploitation pétrolière, surtout au nord du Mexique. Donc cette histoire a continué. C'était à la fin du siècle, du 20e siècle, et a continué jusqu'à le début de la révolution en 1910. Et cette histoire, il a traîné longtemps. Et c'était Lázaro Cárdenas, qui était un des présidents mexicains, c'était pas seulement le fait que Cárdenas était le président du Mexique, il avait un contexte international qu'il fallait comprendre aussi. À l'époque, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était grâce à ça, et en même temps, Cárdenas qui a pu mettre sur place la fameuse constitution de 1917, qui pour différentes raisons n'était pas pu mettre en place. Excusez-moi, j'ai une petite... il faut que je bois de l'eau.
Merci.
Mais si, est-ce que vous m'attendez?
Ouais. Je vais essayer encore comme ça. Donc, après l'exploitation pétrolière, on a vu que le Mexique, il y a une croissance économique assez importante. C'était un des croissances économiques plus importants de l'époque. Même maintenant, je ne pense pas que le Mexique a vécu une croissance économique pareille. Et c'est ça qu'on connaît maintenant comme la Green Revolution au Mexique. C'était connu comme le milagro mexicano. Et cette histoire, il a duré jusqu'à la fin des années 60 et jusqu'au début des années 70. Et bon, c'est de là qui vient la définition de la terre sociale. C'était grâce à Cárdenas, avec la distribution des terres, que cette définition de terre sociale devient plus importante. Et quand je parle de la propriété sociale, je parle des ejidos et les terres communales. Et évidemment, j'imagine, vous êtes au courant, au début des années 70, il y a un ralentissement des économies mondiales. Il y a plein de choses qui sont influencées ça. Une des choses importantes, c'était la chute des prix pétroliers. Il faut être multitask.
Et voilà. Et bon, après ça, on voit qu'avec la récupération européenne, les fameux plans Maastricht qui ont été mis en place, c'est une initiative lancée pour les États-Unis pour la reconstruction européenne. Cette histoire de Maastricht, il nous a touchés aussi. D'une autre façon, avec les ICI et les ELIC, c'est l'Import Substitution Industrialization and Export-Led Industrialization Models. Et bon, plusieurs pays de l'Amérique latine sont touchés avec ces deux modèles. Et l'histoire, c'était plutôt d'enlever ce qu'on connaît maintenant comme les libres échanges, enlever les droits d'importation et d'exportation. Donc, cette vague de décentralisation et privatisation a commencé dans les années 80. Et c'était vraiment le préambule de toutes les négociations pour la ligne. Et bon, évidemment, il y a toute une histoire sur les décentralisation et privatisation de toutes les structures de l'État. Et avec tout cet démantèlement des structures de l'État, il y a aussi des modifications à toutes les constitutions, à les constitutions mexicaines en tout cas. Et que c'était important avant de commencer un accord de libre-échange avec le Canada et les États-Unis. Donc c'est en ce moment là qu'on commence à parler des changements de l'article 27 de la Constitution. Et que bon, c'est très important au niveau que le Mexique c'est un pays traditionnellement agricole. C'est en 1994, le 1er janvier, et ça c'est important à remarquer. Après, un peso qui était sous-évalué pour encourager les importations et de cette façon devenir un pays moderne et développé. Le président Salinas de Gortari, qui était à l'époque le président, il a laissé cette politique jusqu'à la fin des années 93. Et c'est le 1er janvier que cette toute histoire fictive par rapport au peso a tombé avec l'entrée de l'ALENA. C'était un rôle de facteur. Et après ça, on a eu aussi le soulèvement des Zapatistas au Chiapas, et il faut le mentionner. C'est pas seulement l'effet des soulèvements des Zapatistas au Chiapas, c'est aussi l'effet. Il va beaucoup plus loin que ça. C'est l'effet de la répartition des terres pendant la révolution mexicaine, et ça, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Donc, c'est quoi les attentes de l'ALENA? D'abord, c'est lever les droits d'importation et d'exportation, et ça, il faut le faire progressivement, évidemment, pour protéger toutes les économies qui sont les plus faibles. Dans ce cas-là, c'est le Mexique. Et dans certains produits, ils sont donnés des périodes d'équilibre entre 10 et 15 ans. Comme vous êtes au courant, j'imagine, les maïs, les haricots, et je pense que c'est la viande de porc, ils ont enlevé complètement tous les droits d'importation au Mexique en 2008. Et c'était vraiment important. Et les pays c'était une des crises, des pires crises qu'on avait au Mexique, au niveau de la spéculation aussi des aliments qu'il y a eu au nord du pays. Ça, c'est une autre longue histoire que je ne peux pas raconter, mais si vous avez des questions par rapport à ça, je peux vous aider. Je vais me dépêcher. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une grande dépendance aux importations américaines et aussi aux exportations vers les États-Unis. Si vous avez des questions par rapport aux chiffres, je peux vous donner ça plus tard.
la croissance économique qui a toujours été, bah, était toujours autour des 1%, un des plus basses des pays de l'Amérique latine, et le taux de chômage en augmentation. Ça, évidemment, ça touche énormément l'agriculture au Mexique et les milieux ruraux, surtout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la concurrence déloyale. On parle surtout, on essaie de mettre en place la concurrence entre deux systèmes productifs complètement différents. Donc ça, c'est une des choses importantes. La deuxième chose, c'est les subventions données par les gouvernements canadiens et américains par rapport à ceux-là qui ont les gouvernements mexicains. Ça n'a rien à voir de tout. Et ils ont perdu des souverainetés et des sécurités alimentaires, ça c'est clair, qui vient accompagné d'un abandon de la terre et du milieu rural. Donc, et avec l'abandon de la terre, ils ressentent plein de choses. C'est la fermentation, qui c'était une des choses qui était, supposément c'était une des choses que le gouvernement mexicain voulait éviter. Ça, c'est justement c'est le courant en ce moment. C'est la perte de valeur de la terre. Évidemment, les gens essaient de vendre la terre dans n'importe quel pays. Et il y a l'organisation, soit par la même personne qui vend la terre, ou une tiers partie. La vente privée pour la rendre plus productive, ou productive en tout cas, la formation d'associations participatives, excuse-moi, vous avez des questions? Et la formation des coopératives, ça c'est dans les meilleurs des cas. Il y a la formation des coopératives au milieu rural, tel que c'est le cas à Michoacán et à Oaxaca. Donc, quelques faits sur les environnements. Il y a une différence marquée sur le nord et le sud. Au niveau d'irrigation, on prend de l'eau pour la voie verte. C'est de l'eau qu'ils utilisent pour l'irrigation au nord du Mexique. De l'eau au Mexique, il n'y a pas de l'eau au Mexique en ce moment. Il y a une dette énorme entre le Mexique et les États-Unis qui n'ont pas payé depuis des années. Les programmes, c'est un facteur important pour la déforestation. Les programmes, grosso modo, c'est un des programmes qui a encouragé les paysans pour. C'est l'aire des cultives. Ils payaient plutôt en argent comptant l'aire des cultives. Donc, ce qui s'est passé, c'est plutôt bon. On parle des gens qui sont en besoin et ils se rendent compte qu'en augmentant la terre des cultifs, ils vont avoir beaucoup plus d'argent. Donc, ce qui s'est passé, ils ont commencé à utiliser les arbres communales et ils ont commencé à couper les arbres qui étaient juste à côté. Pardon. Donc, ça, c'est des facteurs des programmes pour. Et il y a l'utilisation forte des engrais, des herbicides, des insecticides. Et sans l'assistance technique, et il y a une forte contamination d'eau et des nappes phréatiques, et un fort niveau de détention. Et ça, je ne vais pas le toucher en ce moment, mais c'est important, c'est toute l'exploitation minière, pétrolière, forestière, et ce qui se passe, et comment est-ce que ça touche les TPP. Et voilà, ça c'est les 850 projets minières au Mexique en ce moment, et il y a la prospection, et il y a aussi des projets qui sont déjà mis en place. Et il y a du cadmium, du magnésium, de l'or, de l'argent, plein de choses. Et bon, la plupart des compagnies, évidemment, sont des Canadiens, surtout des Canadiens, et deuxièmement, les Américains. La transformation de l'article 27, c'était un des problèmes, la transformation de l'article 27 de la Constitution, la méprise de l'article 4 de la Constitution, qui parle des droits de chaque individu au Mexique. Et on parle de l'autonomie des communautés autochtones et la mise en place de l'ALENA en 1994. Qu'est-ce que ça donnait? Bon, il y a plein de choses. Il y a la violence, qui, bon, maintenant, ça touche évidemment les gouvernements. C'est la croissance des monopoles et des oligopoles. Et on parle des trois compagnies, principalement en ce moment, qui ont les pouvoirs, les monopoles de l'alimentation. C'est les narcotrafics qui comblent la fonction de l'État. Je vais me dépêcher. La migration vers les grandes villes au Mexique, vers les États-Unis et vers le Canada, la désintégration des réseaux familiales au milieu rural. Bon, ça c'est une chose qu'on va parler plus tard. Pour le moment, Messie Bocage, je vais parler de ça. L'agriculture n'est plus une activité rentable, ça c'est clair. Et une des choses positives, c'est la féminisation du milieu rural. Il y a beaucoup plus de femmes qui prennent des décisions maintenant au niveau des. Comment est-ce qu'ils prennent des décisions au niveau de la terre? Donc maintenant, c'est les femmes qui sont là, qui sont la tête des familles. Et bon, ça, ce sont les conclusions. Et il y a un manque de volonté de l'État. Ça se voit, c'est mélangé un peu avec plein de corruption à tous les niveaux. La procuration de justice indistinctement pour tous et tous, ça c'est important, c'est fondamental. Et il faut investir sans faire aucune différence, soit nord, sud, métis, autochtone. et il faut adapter les politiques publiques au contexte national du pays. Et bon, et il faut éradiquer la violence, et, mais par les vias, pas par les vias de la violence, mais par les dialogues. Donc ça, ça touche énormément d'autres sujets, genre la migration. Donc, merci beaucoup.